Ghislaine David. À l'occasion du 11e anniversaire de sa mort, Mémorable vous propose cette semaine les 4 entretiens de Léo Ferré avec Émile Noël, diffusés la première fois en 1971. Aujourd'hui, deuxième partie, Benoît Misère, les yeux trempés de beauté.
Vous pensez tout le temps à la mort. C'est une réflexion, aussi séparée, c'est une réflexion récente ou une réflexion que vous avez emportée avec vous depuis de nombreuses années. Et est-ce que, quel type de réflexion c'est?
Difficile, c'est une espèce de présence qu'on sent. Il y a quelques années, ça me faisait peur. Je pensais à la mort tout le temps et j'avais peur. Maintenant, je pense à la mort tout le temps et je dois dire que j'ai moins peur. La peur qui reste quand on pense à la mort, c'est le grand mystère.
Oui. Hein?
Bon, c'est tout. Et je crois qu'il faut penser à la mort, c'est une chose utile.
Et alors ce grand mystère, ça veut dire qu'un doute subsiste?
Non, pas du tout. Ah, sur l'après? Bon, non, moi je pense que c'est vraiment, ça fait partie de la vie et que vous vous rappelez pas, vous, quand vous étiez dans le ventre de votre maman et vous étiez déjà vivant. Hein?
Oui, c'est vrai.
Donc c'est une inconscience. Bon, ça fait partie des choses. J'ai l'impression que moi je voudrais me retrouver arbre dans une forêt, un truc, une feuille. Humus, quoi. Et avoir peut-être le sentiment d'être ça, c'est ça au fond, cette espèce de sinistre anthropomorphisme, n'est-ce pas, qui ne nous quitte pas. Je voudrais être arbre, mais savoir que je suis arbre, et puis regarder les gens passer en disant, tu sais pas que je suis arbre, et moi je suis arbre, je t'emmerde. Mmh. Voilà. Donc être un homme dans l'arbre, quoi, c'est ça, définitif.
La lampe d'Aladin.
Oui, et puis je sais pas, je crois que les arbres, s'ils ne pensent pas, ils souffrent en tout cas. Un arbre, ça gueule quand on le coupe. C'est pour ça que je dis, quand on scie un arbre, j'ai mal à la jambe. Tu sais, il y a un livre qui est extraordinaire, qui me fait pleurer. J'habite à l'Italie, et sur ma table de nuit, j'ai un livre que j'ouvre n'importe quelle page, comme on ouvre un livre. Exactement, c'est devenu, pour quelque temps, le livre chevet. J'ouvre ce livre à n'importe quelle page, et je pleure. C'est un livre totalement désespéré. C'est un livre qui n'est pas inventé, puisque c'est une série d'entretiens enregistrés qu'un monsieur qui s'appelle Gavi a eu avec des tas d'ouvriers et des ouvrières qu'il a connus à travers la France.
Ça s'appelle Les Ouvriers.
Ça s'appelle Les Ouvriers, c'est un livre fantastique. Eh bien, aucun espoir. On voit comment ces gens, nous reprenons l'expression, assument leurs conditions, mais ils sont là, ils sont pliés. C'est terrible. Il faut lire ce livre. Laissez-le ça, ne coupez jamais ça, parce que c'est important. Faut dire des choses. Faut pas lire des romans, il faut lire ça. Faut lire ce livre beaucoup plus important que mon livre à moi, par exemple. Voilà.
Alors, puisqu'on y est, vous l'avez écrit pourquoi? C'est finalement votre premier bouquin. Je sais que vous avez une espèce de petit violon dingue, c'est que vous aimez faire de l'imprimerie. Vous avez eu l'occasion d'imprimer un certain nombre de choses.
Et
là,
oui.
Ce bouquin, vous l'avez écrit. On reviendra à l'imprimer tout à l'heure, on a le temps. Ce bouquin, oui, c'est votre premier bouquin. Vous avez écrit d'autres trucs. Vous avez écrit vous avez écrit un oratorio. Vous avez écrit un ballet en dehors des chansons. Vous avez aussi écrit un opéra qui, que je sache, a été refusé par l'ORTF.
Non, c'est pas ça. L'opéra, il avait été envoyé un concours en Italie. Enfin, bref, quoi.
Bon, enfin, bon, le bouquin.
C'était pas bon. Le bouquin, nous reparlerons de la chanson du mal-aimé, si vous voulez aussi. L'ORTF, il y a des choses vraies là-dessus. Et le bouquin, c'est un jour je me suis mis comme ça en 56 à écrire des choses, je ne sais pas pourquoi, sur ma vie de collège. Et puis ça s'est fait comme ça en 2-3 ans, à temps perdu, j'ai écrit ça, et puis je l'ai laissé comme ça dormir. Et puis j'ai écrit la fin de ce livre cette année parce que j'ai trouvé quelqu'un qui a fait que j'ai fait éditer ce livre comme ça, mais c'est un concours de circonstances. C'est un livre intime. Je dis que c'est un roman, c'est évidemment un roman, puisque c'est des tas de choses inventées à travers ma vie, de petit enfant à moi.
Oui.
Mais c'est l'histoire d'un petit
enfant. Le personnage, c'est vous.
le personnage, c'est moi, oui et non, parce que c'est pas totalement moi quand même. Vous comprenez, c'est quand on écrit, l'écriture, c'est une tricherie.
Mais alors, ce Benoît, il est, c'est, je veux dire que j'enlève pas une contradiction, je ne cherche absolument pas des poux dans la tête en ce moment, mais c'est vrai que au travers de quantité de choses qu'on voit de vous, on se rend bien compte que vous n'êtes pas du tout le monsieur qui se retourne fréquemment. Et tout de même, ce roman est la présence de l'enfance dans votre âge adulte.
Oui.
C'est quand même ça.
Et oui, ça c'est évident. Puis vous savez, je suis un enfant encore. C'est ça. Hélas.
Pourquoi?
Et heureusement. Hélas, parce que ça me fait des tas d'histoires. Et puis, dans la vie, dans ma vie sociale, enfin, dans les rapports que j'ai avec les autres. Et puis, heureusement, parce que ça me laisse une naïveté qui me rend fort, définitivement. C'est terrible de ne plus être naïf, je pense.
Mais c'est quand même assez, assez intéressant, assez curieux de voir que c'est après, je réfléchis, 20 ou 25 ans de carrière que ce bouquin apparaît.
Oui. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec ma carrière.
Oui. Et est-ce que c'est un bouquin isolé ou est-ce que c'est finalement peut-être le début d'un autre mode d'expression que vous risquez d'adopter dans les années qui viennent?
Moi, je vais écrire, je crois, parce que je vais arrêter d'aller montrer sur les planches.
Ouais. Monsieur, mon passé, laissez-moi passer. J'ai comme un rancard qui me rend bizarre. Comme les gens pressés qui veulent pas causer, pour pas faire d'histoire, on changera de trottoir. J'ai dans la tête un je ne sais plus de 1925, un je ne sais plus qui continue à faire tourner le moulin dans le bric-à-brac où s'abritent les idées qui font des couacs chaque fois qu'on veut se rappeler ce je ne sais plus qui nous a plu en 1925 et qui n'est plus qu'une fleur perdue parmi les tas de chagrins d'un vieux passé qui n'est pas passé malgré le banjo qui se rappelle d'eau. Et puis guignol ou ma parole, on venait paumer ces belles années. Monsieur, mon passé faudrait bien passer. J'ai comme une envie d'aller faire ma vie. Guignol ou banjo, je te ferai bien la peau. Peut-être qu'une cigale, mais je t'emmène au bal.
Vous m'avez dit, au fond, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aurais envie de faire, ce serait de vivre seul, absolument seul maintenant. Bon, peut-être qu'effectivement, l'homme qui ne monte plus sur les planches et qui écrit peut envisager cette vie solitaire, seule avec un chimpanzé. On va revenir aux animaux aussi.
Oui. Mais ça, c'est mon désir, mais je pense que je ne pourrais pas jamais le faire, parce que, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne dis pas que j'ai besoin, mais mon malheur à moi, c'est les femmes. Ouais. Je dis ça malheur, parce qu'il est difficile de dire qu'une femme, c'est un objet extraordinaire. Et des fois, c'est pas un objet. Puis souvent, c'est un objet qu'on montre, qui vous mène par le bout du nez. J'ai marre d'être un chien avec le collier.
Et pour vous, c'est un problème qui vous semble insoluble.
C'est insoluble.
C'est à la fois
oui.
le désir profond d'en être libéré et l'impossibilité de s'en libérer.
Oui, c'est insoluble, je pense pas, parce que je dis ça, je le dis sincèrement, je le pense passionnément, et puis je ne peux pas être seul dans un lit. Et pourtant, je sais que quand on dort, on dort, je dis dans la chanson Pupée, on couche toujours avec des morts. C'est vrai. Il n'y a rien de plus abominable que quand on se réveille, qu'on voit la femme du moment ou de la vie, quand on pense que la vie, ça peut durer 3 ans, c'est déjà long, n'est-ce pas? Et qu'elle est morte, quoi. Morte. On couche avec des morts. Et alors, temps, on a l'habitude de dire la chaleur de l'autre, l'amitié, la fraternité, tout ça, à deux. Ça n'existe pas. L'horreur de l'amour, ce qui est abominable, c'est le couple. Je disais que j'ai été amené à ça petit à petit, et puis sans vouloir faire de mots, vous savez. Les mots les plus courts, on dit que ce sont des quand ils parlent par coup de poing, ou par pirouette, ou par aphorisme, c'est pas vrai. Je dis que le mariage, d'ailleurs c'est une idée reçue, n'est-ce pas? Le mariage, c'est l'institution officielle de l'amour, et ça tue l'amour, c'est bien connu, d'ailleurs c'est facile à comprendre. Mais je crois que le pire que ça, c'est que ce qui tue l'amour, ce qui est horrible, c'est le couple. Le couple, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec des gens, mais il faut les quitter, puis les revoir, tout ça, avec la faiblesse de l'homme qui dit, et puis le côté un peu fleur bleue, je suis absent, je t'écris pas, on est tous des enfants. Mais à partir du moment où on s'installe avec les souliers, les pantoufles, quand on lit le même journal deux fois de suite dans le lit, c'est pas avec l'autre à côté qui lit aussi son journal, c'était terrible.
Mais à la limite, ce qui tue l'amour, c'est l'amour, alors.
Non, l'amour, c'est autre chose. L'amour. C'est autre chose que ce qu'on croit. L'amour, c'est le don, c'est donner. Quoi. Je crois que c'est ça. C'est pas recevoir. Jamais. L'amour, c'est le don. Voilà.
On s'aimera pour un pignon de soleil qui s'étire pareil au feu d'un feu de bois. On s'aimera pour des feuilles mourantes, sous l'œil indifférent de mon Seigneur froid, de mon Seigneur froid. On s'aimera cet automne, quand ça flanque du blond, quand sonne la sorbonne, l'heure de la leçon. Quand les oiseaux frileux se prennent par la taille et qu'il fait encore bleu dans le ciel en bataille, dans le ciel en bataille. On s'aimera pour un manteau pelé par les ciseaux gelés du tailleur des frimas. On s'aimera pour la boule de gui que l'on neuf à minuit à rouler sous le pas, à rouler sous le pas. On s'aimera cet hiver quand la terre est peignée, quand c'est tout le concert des oiseaux envolés. Quand le ciel est si bas qu'on le croit au rez-de-chaussée et que le temps des lilas n'est pas près d'être chanté.
Il est difficile de parler d'argent. Moi, quand je parle d'argent, il faudrait que je mette 20 ans en arrière quand je gagnais au jour le jour ma vie. Et encore, j'avais de la chance car j'avais ma voix. Vous voyez, j'étais un artiste, je suis pas comme un écrivain ou comme un peintre qui attend de vendre ces choses. Moi, je me vendais tous les jours, le chômage compris. Enfin, j'en parlais l'autre jour à un écrivain, je lui disais, toi c'était beaucoup plus difficile que pour moi, quand nous étions dans la merde ensemble, mais moi, c'était une misère d'abord objective, n'est-ce pas, puisqu'on se dit, bon, on va sentir un jour l'autre, mais avec ma voix, tous les soirs, je gagnais 10 francs, quoi. Bon, eh bien, je vivais. C'est que lui, il attendait, il écrivait, mais il vivait pas. Vous comprenez? Donc, en définitive, j'ai eu pas mal de chance, vous comprenez. Puis un beau jour, l'audience s'est faite ce qu'elle, petit à petit ce qu'elle est devenue maintenant. Et évidemment, quand je suis dans un théâtre, les gens viennent. Donc j'ai une part de ce billet qu'ils achètent pour venir d'abord me voir, me toucher avec les yeux. C'est pour ça qu'on est de façon... On est des gens de prostituées un peu, dans une vitrine, n'est-ce pas? Puis après, ils écoutent, ou ils écoutent pas, enfin, bref. Mais je parle quand même, moi, ce qui me démolit, c'est que on ne peut rien faire, on ne pourra jamais changer rien à rien, les gens ne gagneront jamais leur vie, c'est tout, voilà. Non, mais moi, ce qui peut me gêner, c'est que j'ai beau jeu, moi, de parler, parce que je n'ai pas de problème grave, en ce qui concerne ma façon de vivre dans la société, car évidemment je vis dans la société. Bon. Il y a donc quelque chose, une situation ambiguë. Je n'ai, en définitive, ai-je le droit de parler, étant donné que moi, je suis un type privilégié, mais privilégié par la vie, par ma naissance, par ma naissance, par le fait que je suis ce que je suis, et que je fabrique des choses avec ma tête. Vous comprenez? Et alors, c'est dans ce sens que je suis aussi seul, mais ai-je le droit de parler et de me plaindre pour les autres? Je n'ai pas le droit peut-être, mais j'ai le devoir de le faire, étant donné que j'ai une voix, j'ai une façon de m'exprimer qui peut, comment dirais-je, aider les gens un peu des fois. Et je sais que j'en aide, comme ça, mais comment? Intellectuellement, quoi, sentimentalement. Voilà.
Oui, ça veut dire que là, de toute façon, vous répondez en partie à la question précédente, c'est-à-dire que vous pensez que quand même, bien que le phénomène existentiel soit fondamental, il y a quand même des choses qu'il faut dire ou qu'il faut faire.
Ah bon, c'est le phénomène existentiel, c'est une chose qui me regarde moi, mais en dehors de ça, je suis dans la cité, moi, c'est sûr, évidemment. Il n'y a pas de problème, vous savez pourquoi.
Oui, vous êtes dans la cité, vous avez envie de vivre seul.
Oui.
C'est un conflit, ça.
Ben, c'est le mal entendu. Voilà. Et quand je suis seul, quelque part, je ne veux plus sortir. Je deviens timide et je n'ai plus envie, j'ai honte. Vous savez, quand il y a longtemps que je ne monte plus sur une scène, quand je dis longtemps, ça peut être au maximum un mois et demi, je m'y remets difficilement. Je n'aime pas me montrer. Puis après, le métier revient. Alors, voilà. Le métier, ça favorise bien les choses.
Est-ce que les applaudissements ou l'assentiment du public, c'est quelque chose qui vous encourage ou est-ce que vous pouvez vous en passer très bien?
Là, c'est difficile de répondre. Vous comprenez que quand je fais ce métier et que les gens applaudissent, je les sens contents et j'aurai une mauvaise grâce. Vous dire, moi, l'assentiment, je m'en fous, c'est pas vrai. Hein? Et puis, nous faisons un métier particulier. C'est-à-dire, moi, je suis 2 heures sur une scène, mais toutes les 3 minutes, les gens applaudissent. Ce qui se passe jamais au théâtre. Ou alors, quand on applaudit une réplique dans une pièce, je sais pas moi, de boulevard, ou bien une pièce politisée, quoi. Où les gens sont contents de se délivrer de quelque chose. Ils pensent comme ça, mais nous, on pense comme lui, alors on applaudit. Mais, donc c'est particulier. Les applaudissements font partie de vraiment intégrante du spectacle. Puisqu'on applaudit, moi j'ai 25 ou 28 séquences, chansons. Et bien, chaque fois on applaudit. On applaudit moins, on applaudit plus, ça dépend évidemment. Quoi. Et je ne peux pas dire que je peux me passer des applaudissements. Vous savez, si demain je devais faire un tour de chant du début à la fin, et j'imaginais un jour ça. Et pour moi-même le provoquer, en faisant des enchaînements, vous savez, sans applaudissement, ça me changerait, forcément, parce que, évidemment, il se passerait quelque chose de nouveau. Mais pour le moment, si les gens n'applaudissent pas après une chanson, ça veut dire qu'il vaut mieux que je m'en aille, c'est sûr. Si on n'est pas content, ils s'emmerdent.
La constitution d'un récital, ça suppose effectivement un certain matériel, ça suppose une certaine intuition, mais aussi un certain métier. Je suppose que vous n'êtes pas arrivé au récital comme ça, de but en blanc. Est-ce que c'est aussi pour vous une espèce de tracas ou est-ce que ça vient tout seul? Enfin, est-ce que ça paraît évident, cette organisation?
C'était un tracas, mais maintenant ça l'est beaucoup moins. Ben, d'abord, je ne fais pas ça tout seul, j'en parle à mes copains. Et puis, il y a une habitude aussi. Il y a aussi des trucs, des ficelles, oh, petites. C'est-à-dire qu'on essaie de placer des chansons qui sont différentes les unes des autres, forcément, pour essayer de monter, et de monter pas trop à la première partie pour que ça monte encore plus à la seconde, forcément. Quoi.
la mer, vous pour qui les cheveux ne sont qu'un champ de berne, vous qui brodez des jours au drap de l'univers, vous qui faites l'amour aux roses de l'été. Des violons sur l'Atlantique qui chanteraient la fantastique, le vent qui hurle sur la mer a des violons dans ses yeux verts, comme des violons sur l'Atlantique qui chanteraient la fantastique. Vous que l'on voit debout sur les chevaux du temps, qui buvez le coup à leur naseau tout blanc, vous qui passiez vos nuits à bercer les marins, vous qui donniez la vie aux roses des moulins. Comme un cheval traînant la vague, la mer met toutes ses bagues, le vent qui gère à l'horizon a des sabots dans sa chanson. Comme un cheval traînant la vague, quand la mer met toutes ses bagues, vous qui êtes en croix sur la rose des vents, vous qui tendez les bras au larron du printemps, vous dont les fauves gris font pâte de velours, vous qui faites la pluie, comment ferait l'amour.
Vous êtes monté à Paris tout de suite après la libération.
En 1946, j'étais au bœuf sur le toit.
Comment ça s'est passé là, le début?
Oh, c'était terrible, parce que vous comprenez que moi j'étais une espèce de type, une espèce d'oiseau de malheur à mon piano. Et puis je chantais en m'accompagnant, donc je me servais de ma gueule, qui est expressive, mais souvent trop. Et puis je faisais des grimaces. Alors, c'est Nosferatu le vampire. C'est un mot qui a été repris l'autre jour par un type à la télévision, je ne sais plus qui. Il y a des. Ah ben, un critique de télévision. J'étais au Havre il n'y a pas longtemps et on est venu me filmer 4 minutes. Et juste après, pareil, passait le film Nosferatu et le vampire. Alors il parle le critique, il dit, nous avons vu Ferré qui ressemble à... on aurait dit Nosferatu et le vampire. Et puis après, nous avons vu Nosferatu et le vampire qui ressemblait à Ferré. Voilà. Eh bien, c'est peut-être un peu vrai aussi. Mais quand je m'accompagnais, j'avais mes mêmes prises, alors je croyais, c'était venu comme ça, inconsciemment, je jouais trop de ma gueule, vous comprenez. Et j'arrivais à faire des grimaces abominables, sûrement. Il a fallu que... Ah, vous rendez compte, c'était au début, ça. Alors quand je faisais du monde dans des cabarets, c'était bourré, il y avait 40 personnes.
Oui, c'est l'époque du quadlibet, c'est ça, voilà. Quadlibet, l'arlequin, etc.
Voilà, ouais, c'est l'arlequin, les chats de Jacob. Milord Larsouille.
Vous avez travaillé, vous avez collaboré à plusieurs chansons avec Francis Claude qui animait.
On a fait trois chansons ensemble, deux ou trois. La vie d'artiste et puis les salons.
Et après ces cabarets.
Après ces cabarets, eh bien, il y a encore eu des cabarets longtemps, vous comprenez.
Mais à l'époque, quand même, si je me rappelle, à l'époque, c'était La Chambre, c'était des chansons qui.
Écoutez, alors, j'ai eu deux chansons qui ont marqué le début de mes tours de chant, sur La Chambre et Le Scaphandrier, qui ont été des chansons dont moi j'ai pas écrit les paroles.
Mais ça c'est la musique.
Baer, qui était un type que je connais, très gentil, que j'ai connu sur la côte.
C'était de toute façon des chansons qui étaient plutôt des chansons douces et qui n'annonçaient pas le Ferré qu'allait apparaître très très peu.
Ah oui, quand même, La Chambre, c'est une chanson qui me ressemble quand même.
Ouais.
Oui.
Mais.
Fille,
mais la,
ça s'est tourné comme ça.
La chanson paraphorique.
Sont merveilleuses.
L'aphorisme, la chanson paraphorisme, la chanson par.
Ah oui.
Par ellipse, oui. C'est quand même très caractéristique de Ferré Parolier.
Oui, ben alors ça, c'est venu tout à fait par hasard au début. Quand j'ai commencé à faire des chansons, je faisais de la musique. Alors, je travaillais avec une parolière, comme ça, amateur. Qui n'avait pas beaucoup de talent. Et moi, je ne me rendais pas compte, parce que quand on fait de la musique, on fait de la musique à n'importe quoi. On pense qu'à la musique. Puis un beau jour, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, et j'ai fait des paroles comme ça. Moi.
C'était avant de monter sur, enfin, avant,
oui,
de
avant,
monter sur Paris,
c'est oui, ça. Avant. Oui, avant. Très peu, mais vraiment. Et puis, ce sont des chansons que je ne pourrais pas chanter maintenant. C'est bizarre, ça. Parce que je ne peux plus chanter ces chansons. Dernièrement, il est arrivé, au Havre. Mes copains me disent, tu devrais prendre des anciennes chansons, par exemple. Tu devrais rechanter L'Homme, par exemple. J'ai chanté L'Homme un soir. Je n'ai pas chanté deux. Je me suis ramassé. Je ne sais pas pourquoi.
Veste à carreaux, bien smoking, portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings, déjà voûté par les courbettes. La page d'espoir pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dame avec la bonne. C'est L'Homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à courre chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan, et le reste, mon Dieu, pour l'Amazone, c'est là. Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vide, le sens du devoir accompli, et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour qu'on prend comme un express, alors qu'elle veut faire la vaisselle. C'est L'Homme. Le héros qui part le matin, l'autobus de l'aventure, et qui revient après le turbin, avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui, qui sonne comme un téléphone, le chien qu'on prend comme un ami, quand il ne reste plus personne. C'est L'Homme. Les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode, avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Des mots d'amour à fistoler, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la flotte de l'âge. C'est L'Homme.
C'était mémorable. Léo Ferré s'entretenait avec Émile Noël en 1971. Réalisation, Isabelle Mézil. Demain, troisième entretien, tu nous chantes Le Pauvre Bœuf, Léo.
Kinetic art object.
France Culture, partenaire de Coming Apart, un film inédit de 1969 de Milton Moses Ginsberg. Psychanalyste new-yorkais, Joe Glaser dissimule une caméra dans son appartement et filme tout ce qui s'y passe, notamment sa vie intime avec les femmes. Tourné en plan fixe et unique, audacieux dans sa forme et son propos, Coming Apart place le spectateur en voyeur. Jugé scandaleux à l'époque, ce film se révèle être aujourd'hui à la fois novateur et témoin de son temps. Coming Apart, un film à découvrir en salle le 14 juillet, à retrouver dans les émissions de France Culture. France Culture vous invite à la projection de ce film, mercredi 14 juillet, au cinéma Utopia à Avignon. Vos réservations au 32 30, tapez étoile, puis 2 et 3 pour France Culture. 34 centimes d'euros la minute. France Culture au Festival d'Avignon présente Texte et compagnie. 5 voix de femmes qui disent le monde et leur monde. 5 rencontres inédites tous les soirs à 18h du 14 au 18 juillet au Musée Calvé à Avignon. Renseignements au 04 90 14 14 14. Mercredi 14 juillet, Pourquoi le Brésil, de Christine Angot, mise en espace par Éric Lacascade. Programme complet sur franceculture.com.